Effectivement, je vais donner ça comme titre. Alors, j'ai un peu changé de titre, mais le thème est le même. Comme je vais l'expliquer, je vais me concentrer en fait sur quelque chose qui est plus directement lié à l'objet de ces journées, à savoir sur une expression platonicienne qui est auto-katoto. Et donc ça va un petit peu prendre la suite de ce que disait Frédéric. Ça va y recouper un certain nombre de choses, sauf qu'on va passer au plan métaphysique qu'elle ne voulait pas aborder, et je la comprends. Mais je serais sans doute aussi, moi aussi un peu déflationniste de ce point de vue-là, quoi. Je commence par une citation. Alors que Platon discourait sur les idées, peri ideon dialegomenou, et mentionnait l'idée de table, l'idée de siat, Diogène lui dit: pour ma part, Platon, je vois une table et un siat, mais l'idée de table ou de siat, je ne les vois pas du tout. C'est, comme vous savez, Diogène Laërce qui rapporte cette anecdote entre Platon et Diogène de Sinope. Après lui, Simplicius, dans son commentaire aux catégories d'Aristote, relate une anecdote tout à fait similaire qui met en scène non plus Diogène, mais Antisthène et Platon. Commentant l'ouverture du chapitre 8 des catégories consacrées à la qualité, Simplicius propose une rapide historia sur le terme même de qualité employé par Aristote. Il précise que ce terme fut inventé par Platon dans le Théétète, 182a, et il ajoute la remarque suivante. C'est le texte 2. Certains parmi les anciens ont entièrement supprimé les qualités, tout en incardant qu'il y a du qualifié. Par exemple, Antisthène, qui discutant un jour avec Platon, lui dit « Oh Platon, je vois bien le cheval, mais la chevalité, je ne la vois pas. » Bien qu'elle soit tout à fait similaire, la version que Simplicius rapporte de l'anecdote est nettement plus intéressante, tant par le contexte dans lequel elle apparaît que par sa précision philosophique et terminologique intrinsèque. Là où le témoignage de Diogène Laërce montre Diogène de Sinope opposant simplement l'évidence sensible de la table, trapezan, à l'inévidence de sa tabularité, trapezoteta, si on peut dire, Simplicius explique que cette opposition s'enracine dans le rejet de la différence entre les qualités et le qualifié, c'est-à-dire entre l'idée même qui fait d'une chose ce qu'elle est, une table, un cheval, etc., et la chose qualifiée. Que répondre à Diogène et à Antisthène? Il serait facile, après tout, philosophiquement, de répliquer à l'un comme à l'autre que pour dire que ce qu'ils voient est un cheval ou une table, et non un âne ou une chaise, il faut qu'ils aient au moins une vague idée de ce qui caractérise en général les chevaux et que leur langue dispose du mot cheval. Bref, qu'ils conçoivent quelque chose comme la chevalité. Pourtant, le bon sens, qui comme on sait est la chose du monde la mieux partagée, veut que l'on accorde à Antisthène et à Diogène et à tous ceux qui, au cours des siècles, et ils sont très nombreux, qui ont repris cette critique, on leur accorde que le réel est du côté du cheval et que la chevalité n'est qu'une abstraction. C'est de ce bon sens que Platon aurait singulièrement manqué, lui qui s'est obstiné à tenir l'idée de cheval pour plus réellement existante que n'importe lequel des chevaux rencontrés dans ce monde. Qu'est-ce qui a pu conduire Platon à soutenir une thèse aussi extravagante, thèse fantastique que l'on a baptisée après lui, mais à tort selon moi, théorie des idées? Alors, si la thèse de Platon est extravagante et fantastique, que dire de mon entreprise qui, en l'espace d'un exposé, se donnerait pour tâche de rendre compte d'une thèse philosophique dont il n'est pas exagéré de dire qu'elle n'a cessé de susciter réactions, polémiques, commentaires, etc. depuis 2 millénaires et demi. À l'évidence, on dirait que cette entreprise est folle. Je vais donc tenter de ne pas sombrer dans cette folie et circonscrire immédiatement mon sujet. Mais comme vous le verrez, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. L'analyse des raisons philosophiques qui ont poussé Platon à soutenir l'hypothèse de l'existence des formes intelligibles ne sera jamais loin. Durant cet exposé, je vais me concentrer sur une expression platonicienne dont Platon fait généralement usage pour caractériser les formes intelligibles, l'expression « auto, cat, auto ». Le choix de cette expression, dans le cadre de notre étude commune, ne doit évidemment rien au hasard. Plus que toute autre expression appartenant au lexique des idées platoniciennes, si on veut, auto, cat, auto, de par sa structure de redoublement réflexif, dit le mode d'être des formes qui, comme on le sait, existent en soi et par soi et demeurent même qu'elles-mêmes. En soi et par soi, même que soi-même, telles sont les deux façons principales, il y en a d'autres, de traduire auto, cat, auto. Ces deux traductions concurrentes et ou complémentaires disent déjà quelque chose du problème philosophique que je voudrais aborder aujourd'hui. Dit-on exactement la même chose quand on dit qu'une idée platonicienne est en soi et par soi et qu'elle est même qu'elle-même? La première expression semble distinguer un mode d'être, celui propre à l'essence, dont Aristote nous dira, là encore à tort, qu'il est séparé. La seconde expression, quant à elle, désigne plutôt la caractéristique d'un être, celle d'être toujours identique à soi-même. La question qui va m'occuper n'est pas terminologique et n'est pas celle de savoir quelle traduction est correcte, hein, car il apparaîtra qu'évidemment, selon les contextes, c'est l'une ou l'autre qu'il faut privilégier. La question que je veux poser est directement philosophique. Comment Platon conçoit-il les rapports de l'être et de l'identique à soi? Sont-ce là deux caractéristiques des formes qui s'entre-impliquent nécessairement? Ou peut-on, ou doit-on, faire entre elles une différence? Dans ce qui suit, je vais essayer d'expliquer ce que je crois être les raisons pour lesquelles l'ontologie platonicienne réaliste des formes intelligibles se doit de distinguer entre ces deux attributs. Enfin, c'est tant est que l'être soit un attribut, ce qui n'est pas. C'est deux termes, disons. Alors, pour conclure ce préambule, et même si j'ose à peine m'aventurer dans un domaine que je connais aussi mal que la pensée de Saint-Augustin, je veux dire néanmoins en quoi ce problème est directement lié à la question de l'analyse de l'usage d'idipsum chez Augustin. Les lectures que j'ai pu faire pour préparer cet exposé, et je remercie Dominique et Isabelle de m'avoir donné l'occasion de me plonger dans cette terra incognita pour moi, m'ont montré qu'il y a, relativement à la question de la référence d'idipsum, un enjeu philosophique de premier plan. Idipsum est employé par Augustin, parallèlement à d'autres expressions qui, pour bon nombre d'entre elles, relèvent directement de l'ontologie. Or, idipsum signifie aussi, très simplement, la même chose. Aussi, quand Augustin désigne Dieu par idipsum, quel est le sens profond de son entreprise? S'agit-il pour lui de désigner le mode d'existence de ce qui est au plus haut point, en liant ainsi Dieu à l'être, et en préfigurant peu ou prou Thomas d'Aquin, comme bon nombre de traducteurs et de commentateurs le soutiennent, parmi les plus grands, Gilson, Solignac, en un certain sens Madec, etc. Ou bien, Augustin fait-il de cette expression un usage radicalement biblique, comme l'a soutenu très récemment Jean-Luc Marion, prenant idipsum comme un déictique apophatique qui révèle une réalité au-delà de la conception métaphysique de l'être. Enfin, qu'Augustin ait puisé via la Vetus Latina l'emploi d'idipsum montre bien la réalité d'une certaine attraction de la conception antique de l'être et justifie que l'on s'interroge, même en mettant entre parenthèses que je ferai la question de l'influence textuelle directe, ça justifie donc que l'on s'interroge sur la conception platonicienne des rapports de l'être et du même. Alors, j'en viens à la première partie, que j'ai intitulée « Le sens dialectique d'auto-catoto ». Je commence donc par un certain nombre de remarques sur l'usage de l'expression qui m'intéresse dans les dialogues. Le problème semble assez entendu, auto-catoto est le plus souvent utilisé par Platon en référence aux formes. Cependant, dire cela, c'est non seulement ne pas dire grand-chose, mais c'est également dire quelque chose d'inexact, car il s'en faut de beaucoup que ce soit là le seul usage de l'expression dont les dialogues témoignent. Alors, la question est de savoir si l'expression auto-catoto est plus généralement des expressions de la forme to-auto-x ou auto-to-x sont suffisantes en elles-mêmes pour indiquer que Platon se réfère à une forme intelligible. S'agissant de la seconde expression, hein, to-auto-x, les choses sont claires et la réponse est non. Quand, par exemple, Socrate analyse l'âme tripartite au livre 4 de la République, il parle de, je cite, « la soif en elle-même », auto-to-dipsen. À l'évidence, il ne désigne pas une forme de la soif, mais seulement un appétit caractéristique de la partie désirante de l'âme. Dans ce contexte précis, l'expression dont il use est équivalente à une autre qui est employée juste avant, qu'on peut traduire par la soif en tant que soif. Kat, hoson, dipsa, esti. Il en est de même pour la forme intensifiée de l'expression qui m'intéresse aujourd'hui. Même si auto-catoto désigne très souvent une forme platonicienne, cela n'est pas toujours le cas. J'en veux pour preuve un passage sur lequel je reviendrai et auquel Frédéric a fait allusion, je crois, et où Socrate recommande l'usage de la dianoïa, auté catoten, pour faire la chasse à chacune des réalités en tant que chacune est auto-catoto. Hein. Phédon 66a. Il est clair ici que la dianoïa caractérisée dans ce passage n'est pas une forme, puisque précisément elle doit s'appliquer à rechercher des réalités qui, elles, le sont. La seconde clause, en revanche, désigne bien des formes intelligibles. Il apparaît donc que, de façon générale, la locution auto-auto-x et la locution intensifiée auto-cat-auto sont utilisées par Platon pour isoler une réalité ou un processus. C'est-à-dire, et je m'explique, pour supprimer une qualification ou une relation quelconque mentionnée dans le contexte. Seule l'analyse du contexte est donc à même de déterminer si Platon se réfère à une forme platonicienne quand il fait usage de ces expressions. Or, dans bon nombre de passages, ce n'est pas le cas. Alors, on va examiner certains d'entre eux où la locution auto-cat-auto apparaît. Par exemple, passage de Lippias majeur. Dans Lippias majeur, discutant de l'assimilation proposée par Hippias entre le beau et le plaisir de la vue et de l'ouïe, Socrate rappelle que chacun de ces deux sens comporte ses plaisirs propres et que l'on peut, l'un et l'autre, définir comme beau. Je traduis, nous affirmons que chacun de ces deux types de plaisir est beau isolément, c'est ma traduction, et que tous les deux ensemble le sont aussi. L'opposition est ici entre Hekateron, chacun des deux membres d'une paire, et Amphotera, les deux membres de cette paire, montre bien qu'ici la locution auto-cat-auto ne sert qu'à renforcer l'idée selon laquelle le prédicat beau doit être attribué à chaque membre du couple, considéré indépendamment de sa relation à l'ensemble que la paire forme. Considérons maintenant un autre passage, celui de extrait de l'Otidème. Cherchant à montrer à Clinias que sans le savoir et la phronésis, les biens usuellement reconnus comme tels n'ont aucune valeur, Socrate précise, c'est le texte 4, « En somme, Clinias, pour l'ensemble des biens que nous reconnaissions au début, il y a des chances que ce ne soit pas là le logos qu'il faut tenir à leur sujet, qui fait d'eux des biens en eux-mêmes par nature. Mais voici plutôt, semble-t-il, ce qu'il en est. Dirigés par l'ignorance, ils sont des mots pires que leur contraire, et d'autant pire qu'ils sont plus capables de servir leur mauvais guide, conduits par la raison et le savoir, ils prennent plus de prix, mais par eux-mêmes, ni les uns ni les autres n'ont aucune valeur. » Alors, richesse, santé, beauté, réussite, mais également courage, tempérance, justice, sont des biens reconnus par tous et unanimement loués. Mais ces biens n'ont aucune valeur si aucune science ne guide leur usage. En d'autres termes, même les biens les plus indiscutablement bons, si j'ose dire, sont neutres quand ils sont considérés en eux-mêmes et indépendamment de leur usage. L'utilisation de auto-cat-auto est ici très révélatrice de la stratégie argumentative radicalement intellectualiste de Socrate. Il s'agit de montrer à Clinias que c'est l'acquisition de l'épistémé qui doit constituer le but de son existence, car elle seule permet de savoir user de tous les autres biens et partant d'être véritablement heureux. Pour le démontrer, Socrate n'hésite pas à mettre sur le même plan des biens accessoires, richesse, santé, réussite, et des vertus intrinsèquement bonnes, justice, tempérance, et en même temps de distinguer l'ensemble de ces biens du seul bien auto-cat-auto, à savoir la science. Alors évidemment, la justice et la piété seront des biens auta-cat-auta, mais ils le seront dans ce dialogue, en tout cas en tant qu'ils sont identifiés à la science. Ici, auto-cat-auto permet donc d'isoler une réalité donnée hors des relations qu'elle entretient à d'autres pour montrer qu'elle tire sa propriété, ici c'est être bon, qu'elle tire sa propriété par relation à une autre réalité qui, elle, et c'est la conclusion implicite du passage, est bonne par elle-même et en elle-même. On retrouve à peu près le même argument dans le Ménon, dans le texte 5, sur le rapport entre vertu et phronésis. Je ne le lis pas, il est assez connu. La proximité avec le tidème est évidente, la conclusion aussi. La vertu ne peut être qu'une forme de phronésis. Il s'agit, une fois de plus, de rappeler que si la phronésis manque, on peut bien apprendre tout un ensemble de choses ou être courageux. Les actions entreprises ne réussiront que si elles sont guidées par un savoir leur assurant le succès. En ce sens, rien n'est utile ou nuisible en soi, si ce n'est la phronésis. Or, ce qui assure la dépendance de toutes les vertus de l'âme par rapport à la science est le fait que c'est l'adjonction, prosgenomenes dans le texte, de cette dernière, qui fait passer telle ou telle qualité, le courage, la tempérance, du statut de disposition neutre au statut de disposition bonne. Donc ne pas être auto, catauto, x ou y, signifie donc que la réalité envisagée tient la qualité qu'on peut lui attribuer de sa relation à une autre réalité. À l'inverse, évidemment, la phronésis peut être dite bonne, autè, catauté, car elle ne dépend de rien d'autre, qu'elle-même pour être ce qu'elle est et mène invariablement au résultat escompté. La méthode dans ce passage du Ménon est la même que dans celui de Thidème. On se demande si une chose a telle propriété, être bonne. Pour ce faire, il faut disposer d'un critère. Le critère est que cette chose possède en elle-même cette propriété indépendamment des relations qu'elle entretient à d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle la possède de façon intrinsèque et essentielle. Notons que ça ne signifie pas que cette chose doit être la seule à posséder cette propriété. L'important est qu'elle le fasse de façon non accidentelle, c'est-à-dire qu'il soit nécessaire qu'elle la possède et qu'elle la possède invariablement. Examinons alors cette chose. Il s'avère que, considérant en elle-même et par elle-même, indépendamment de toutes ses relations, elle n'a pas la qualité qu'on lui attribue. Donc, dans le Ménon, comme dans le Thidème, ou par exemple dans l'Isis de 120c, auto-catoto sert à neutraliser la valeur supposée d'une chose pour examiner la question de sa valeur intrinsèque. Alors, aucun autre passage de Platon ne va sans doute plus clairement dans ce sens que le grand discours de Glaucon au début du livre 2 de la République. Discours qui relance, comme vous savez, tout le dialogue. Glaucon n'est pas convaincu par la défaite de Thrasymaque à la fin du premier livre, et il en veut plus. Et il lance un défi à Socrate qu'il met dans ces termes, c'est le texte 6, « Je désire en effet entendre ce que chacune des deux, justice et injustice, ce qu'est chacune des deux, et quelle puissance elle a en elle-même quand elle se trouve dans l'âme, en laissant de côté les compensations et les effets qu'elle produise. » Alors, on aura noté la différence d'emploi, ici, d'auto-catoto, par rapport au passage précédent. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit plus ici d'isoler une propriété, mais bien la justice elle-même, ou plutôt sa puissance. Mais même, ceci étant dit, force est de constater que, dans la bouche de Glaucon, la justice en elle-même n'est pas une forme intelligible. Elle ne l'est pas encore. Auto-catoto représente avant tout une exigence formulée au début du livre 2 dans la classification des biens que Glaucon a proposé. Si la justice est ce bien que nous aimons pour lui-même et pour ses conséquences, alors il faut préalablement savoir ce qu'elle est en elle-même et isoler sa puissance propre et singulière dans l'âme, indépendamment de toute autre chose. C'est cette exigence d'isolation de la nature propre de la justice qui va précisément dicter à Glaucon l'expérience de pensée qui va suivre, bien connue, celle de l'examen du choix de vie de l'homme parfaitement juste et considéré par tous comme un homme parfaitement injuste. Alors, dans tous ces passages, on voit que l'expression qui nous intéresse désigne une exigence que doit satisfaire l'examen dialectique s'il veut connaître la nature de l'objet qu'il traite. Dans ces contextes, la notion d'identité induite par l'expression est généralement négative. Considérer une réalité en tant qu'elle est même qu'elle-même revient à faire abstraction de toutes les relations qu'elle entretient avec d'autres réalités connexes, ce qui signifie à la fois deux choses, de neutraliser la question de sa valeur et de supprimer l'examen de ses effets. Ce qui est deux choses différentes. Le statut auto-catoto de l'objet considéré est ainsi dans ces contextes le produit de ce que j'appellerais une purification dialectique. Et on voit bien pourquoi j'emploie le mot purification. On me voit venir avec mes gros sabots. D'ailleurs, le texte, j'ai des textes pour le montrer, puisque par exemple Politique 304a reprend exactement cette même idée justement d'une purification d'un ensemble d'art parent proche du politique dont il faut l'épurer pour le voir pour voir l'art politique cat autem tel qu'elle est. La question du statut d'identité à soi, la mêmeté de l'objet si on peut dire, est une autre question qui, on va le voir, demande un autre type d'analyse que Platon marque de manière différente dans les dialogues. J'en viens donc à ma deuxième partie que j'ai intitulée le chaos du devenir et la nécessité de la permanence. Je reviens aussi à mon problème initial. L'origine d'une hypothèse aussi extravagante que celle des idées est, à n'en pas douter, je l'affirme, c'est l'objet de beaucoup de discussions, la conscience que Platon a, que notre monde est soumis à un perpétuel devenir. Il faut bien voir cependant que pour Platon, ce devenir n'affecte pas que les choses sensibles. Bien sûr, toute chose sensible est variable. Ses propriétés sont relatives et ce, de manière différente. La neige fond, les espèces animales mutent ou disparaissent, telle ou telle couleur qui nous paraît rouge sous tel angle ou tel éclairage paraîtra autrement si les conditions de sa perception changent. Il en est de même pour ce que nous tenons pour des valeurs ou des vérités. La justice comme la vérité d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, celles des Grecs ne sont pas celles des barbares. Toutes nos opinions sont donc inévitablement amenées à se modifier, et ce précisément parce qu'elles portent sur une réalité constamment changeante et relative. On peut donc distinguer dans les dialogues deux perspectives distinctes sur le devenir. Selon que Platon aborde une question éthique ou politique, ou une question d'épistémologie. La première perspective identifie le devenir à un chaos de pulsions et de forces, la seconde à un chaos d'événements, d'apparitions et de disparitions. Je vais totalement laisser de côté la première pour me concentrer en détail sur la seconde. L'analyse la plus détaillée que Platon ait donnée de cette perspective sur le devenir, c'est évidemment la première partie du Théétète. Celle-ci peut être lue comme l'examen successif des différents présupposés de la première réponse de Théétète, qui est, comme vous savez, la science et la sensation. Mais elle peut aussi être lue comme une entreprise progressive de déréalisation du monde sensible au fur et à mesure que ces présupposés sont articulés les uns aux autres. Dans la première partie du dialogue, Socrate examine successivement ce qu'il faut admettre pour que la réponse de Théétète soit vraie. La science, c'est la sensation. De l'assimilation de la science à la sensation à la doctrine relativiste de Protagoras, la conséquence est bonne. Et de la doctrine de Protagoras à celle d'Héraclite, la conséquence est bonne également. Je ne discute pas de la question de savoir si Socrate a raison, d'un point de vue analytique, de faire ça. En tout cas, c'est une décision de Platon de le penser, ce qui est un autre problème. Voyons d'abord brièvement comment Socrate présente cette doctrine d'Héraclite présupposée par la réponse de Théétète et le relativisme protagoréen. C'est le texte 7. Je vais te répondre par une parole qui, elle aussi, n'est pas sans valeur, au sens où, par conséquent, un en soi et par soi, rien ne l'est. Et c'est à tort que tu désignerais une chose, ou même tu en énoncerais telle ou telle qualité. Mais Socrate ne s'arrête pourtant pas là. Pour que la thèse d'Héraclite soit vraie, à savoir que toute chose est en devenir, donc en mouvement, il faut qu'elle soit radicale, donc que toute chose soit absolument en mouvement. En effet, la thèse d'Héraclite, dans le passage que j'ai lu, affirme seulement, selon Socrate, que ce sont les qualités qui sont les produits des mouvements, grand, petit, chaud, froid, etc. Ces mouvements étant les produits d'une rencontre entre une translation et un organe. La thèse des Héraclitéens les plus subtiles est, quant à elle, beaucoup plus radicale. C'est le texte 8, et qui reprend le passage que je viens de citer. Il faut soutenir de la même façon que dur, chaud et tout en soi et par soi rien ne laisse, que nous disions déjà alors, mais que dans leur interaction mutuelle, toutes choses en viennent à se ressembler toutes à cause du mouvement, etc. etc. Et le texte continue, il faut du coup éliminer le mot être et éliminer tout un ensemble de termes impropres. La thèse affirme que tout est mouvement et que ce mouvement a deux formes, l'agir et le pâtir. Autrement dit, rien n'est de façon fixe, agent ou patient, car ce qui est agent lors d'une rencontre peut devenir patient lors d'une autre. Il n'y a donc ni sujet ni objet, ni sujet ni prédicat, seulement une multiplicité de genèses instantanées, d'événements sensoriels qui se dédoublent provisoirement en senti et sentant. Tout est donc atomisé, variable, rien n'a de consistance ni d'identité ou d'unité propre. Ce que nous croyons être des choses, un homme, des pierres, telle ou telle une table, ne sont ainsi que des agrégats. Et dans ce contexte, parler de devenir est encore en un sens trop dire. Du coup, question, que reste-t-il de permanence et d'identité dans ce monde radicalement fluide ? C'est le texte 8, c'est le texte 9, pardon. À nous deux donc, il ne reste que notre relation mutuelle, emin alleloïs, qui soit si nous sommes ou qui devienne si nous devenons, puisque précisément notre être, la nécessité ne le relie à aucune des autres choses et ne le relie même pas à nous-mêmes. Ce passage est extrêmement important car il montre très clairement que le monde des Héraclitéens radicaux est un monde de relations pures et non de liaison entre les phénomènes. C'est un des aspects qui m'avait plus intéressé dans ma thèse, justement. En effet, le seul lien qui subsiste au sein de ce chaos d'apparition et de disparition est la simple corrélation, toujours changeante, du senti et du sentant. Ce monde est exactement similaire, du moins c'est ce que je soutiens, à celui que développe la septième hypothèse négative du Parménide. 164b, 165e. Quelles sont, demande Parménide, les conséquences de l'inexistence de l'un ? De l'un, on peut dire qu'il n'est pas, ce qui implique au moins d'en avoir une représentation, donc de lui conférer une existence minimale. mais pour les autres de cet 1, Parménide montre qu'ils sont à la fois existants et inexistants, et n'ont donc de détermination que celle qu'ils reçoivent de leur altérité mutuelle. C'est le texte 10 que je ne lis pas. Ce que ce texte décrit, qu'est-ce que c'est ? C'est un monde d'onkoi, c'est-à-dire un monde d'ama, hein, où le contraire se change en son contraire, où l'unité apparente se révèle multiplicité, et où ces masses, hein, ces onkoi, disparaissent, exaifness, hein, soudainement, aussi vite qu'elles sont apparues. Donc voilà le monde de cette septième hypothèse, qui à mon avis est exactement parallèle au monde des héraclitiens les plus subtils. Alors après avoir développé chacun des présupposés nécessaires à la validité de la réponse de Théétète, Socrate va passer à la critique. En examinant le mobilisme héraclitéen, Socrate commence par distinguer deux camps adverses. Le camp des immobilistes, c'est celui de Parménide, sans lequel rien ne se meut ni ne change, selon lequel rien ne se meut ni ne change. Le camp des mobilistes, selon lequel tout est mouvement. Donc la première thèse, comme vous savez, sera évaluée dans le Sophiste. La seconde est l'objet d'une critique dans le Théétète. Quelles sont la teneur et les enjeux de cette critique ? Alors, on lit habituellement cette critique comme une forme de réductio qui porterait sur la possibilité du langage. C'est la thèse la plus courante. Socrate réfuterait la doctrine du flux héraclitéen parce que celle-ci impliquerait une conséquence inacceptable. On ne peut plus parler puisque plus rien n'est fixité. Comme certains commentateurs, notamment David Seldel, l'ont bien remarqué, si tel était le nerf de l'argument, il ne servirait pas à grand-chose dans l'argumentation générale du dialogue. En effet, ce que Socrate doit montrer, c'est plutôt à quel point la théorie du flux héraclitéen doit être radicale pour que la première définition de la science soit préservée. Or, la conséquence d'une telle radicalité est la suivante. Afin de préserver la définition, le flux doit être conçu de telle manière qu'il rende impossible la démonstration de la définition. Le vrai argument est là. Donc ce que Théétète présuppose sans le savoir, c'est une théorie qui rend impossible le fait même qu'il définisse la science comme sensation, le fait même qu'il définisse tout court. Alors comment Socrate va-t-il démontrer une telle impossibilité ? Eh bien il va montrer qu'à chaque perception correspond un appareillement entre un perçu et un percevant, qui sont l'un un amas de qualités changeantes et l'autre un amas de perceptions ressenties. Or, il faut que perçu et percevant changent constamment, hein, tant par un mouvement local que par une altération. Sinon, évidemment, les héraclitéens radicaux réintroduiraient une forme de repos, hein, au moins relative, et du coup ne seraient pas radicaux. À chaque instant, ces perceptions corrélatives changent. Le devenir radical du monde est donc constamment rythmé par ces corrélations en perpétuel changement. De ce monde, que peut-on dire de vrai ? Réponse, absolument rien, puisque les objets qui correspondent à n'importe quel logos se seront évanouis avant même que les mots qui les désignent soient proférés. À partir de 182 D, Socrate porte l'estocade finale à cette conception radicale du devenir. Celle-ci ne se contente pas de ronger la possibilité même de la définition, elle détruit même la sensation. Car rien, finalement, n'est plus une sensation qu'une non-sensation. Alors, quels sont les enjeux de cette critique ? Évidemment, il s'agit de montrer que toute définition empiriste de la connaissance est vouée à s'autodétruire. Parce que la sensation est indéfectiblement liée au devenir, elle ne peut en aucun cas constituer le fondement d'une connaissance authentique. Très bien. Mais ce n'est pas le seul enjeu. La première partie du Théétète montre aussi, et peut-être surtout, ce que « devenir » veut dire. Un monde de devenir pur est un monde où aucun lien n'est possible. Un monde où l'âme n'a strictement aucune prise sur la réalité extérieure et où la capacité qu'une âme a d'interroger et de répondre, donc de dialectiser, est tout simplement vide de sens. Il est intéressant de remarquer que les occurrences de l'expression « autokatoto » n'apparaissent pas que dans l'examen du flux du devenir. Quand elles apparaissent dans l'examen du flux du devenir, c'est les textes que je vous ai donnés, elles sont parfaitement convergentes. Elles apparaissent aussi à partir de 184a, quand Socrate examine non plus les présupposés qu'il voit à l'œuvre dans la thèse de Théétète, mais la thèse elle-même, directement. Il montre à Théaetet que l'âme doit nécessairement intervenir dans le processus perceptif et que c'est par elle seule que la sensation brute est transformée en perception, car seule l'âme est capable d'appréhender les notions communes relatives aux sensations locales, l'être, la ressemblance, la dissemblance, l'unité, la multiplicité. Socrate en conclut, c'est le texte 11, « Cependant, nous voilà assez avancés pour ne chercher la science, absolument pas dans la sensation, mais sous le nom, quel qu'il soit, que porte l'âme, quand, ne faisant appel qu'à elle-même, elle a affaire elle-même aux réalités. » Otekatoten, pragmatuetai perita onta. La piste lancée par Socrate ne va pas être suivie par Théaetet, qui ne peut voir que l'examen de l'âme elle-même par elle-même n'est pas de l'ordre de l'opinion. Cependant, cet usage de l'expression montre ce qui est en jeu ici. Pour comprendre la nécessité de poser des réalités qui soient toujours mêmes qu'elles-mêmes, il faut partir d'une certaine activité de l'âme qui seule peut nous faire comprendre la nécessité de cette hypothèse. L'anecdote que je rappelais en commençant, comme vous le savez, n'était pas complète. Car Simplicius rapporte que Platon aurait répondu à Antisthène « C'est parce que tu as l'œil pour voir le cheval, mais celui qui permet de saisir la chevalité, tu ne le possèdes pas du tout. » C'est justement de ce troisième œil, si j'ose dire, cet œil de l'âme, c'est ce troisième œil dont Socrate va montrer la puissance et la nécessité dans le Phédon. Et c'est par lui, je le soutiens, que l'expression « auto-katoto » va être constituée comme un philosophème indispensable à l'hypothèse des formes intelligibles et, plus généralement, comme un marqueur capital de l'ontologie platonicienne. Alors, j'en viens à ma troisième partie. Être en soi, être même que soi-même, qui est un examen du Phédon, enfin, partiel du Phédon. Donc, mon idée, c'est que c'est avec le Phédon que l'expression auto-katoto se constitue en philosophème. Évidemment, il reste à savoir comment et pourquoi. Comme vous le savez, le Phédon commence par une sorte de plaisanterie de Socrate, qui évidemment, de quoi se réjouir. On risque de ne pas voir, dit-il, que tous ceux qui s'appliquent droitement à la philosophie ne s'appliquent à rien d'autre qu'à mourir, à être mort. Les philosophes s'appliquent à mourir, d'accord, mais en quel sens ? Que la mort soit une séparation de l'âme est avancé d'emblée par Socrate, et il l'avance dans ces termes. Se peut-il que la mort soit autre chose que la séparation de l'âme avec son corps, apotus somatos apalagen ? Se pourrait-il que la mort soit autre chose que cela ? Le présupposé est donc que l'homme est l'union d'un corps et d'une âme. Cette union peut être vécue comme un enchaînement et une confusion. C'est pourquoi, en 67D 4-5, Lucis kai Chorismos viennent remplacer le terme apalagé du début est l'explicite. Mais comme vous savez aussi, il s'agit là d'une interprétation qui est propre aux authentiques philosophes. Lorsque l'âme et le corps se trouvent à part, le corps est rendu à lui-même, autokatotosoma gegonenai, il en va de même pour l'âme, oten katoten einai. Alors, naturellement, la symétrie impliquée par l'usage parallèle de la même formule rapportée au corps et à l'âme n'est qu'apparente. Sans l'âme, en lui-même, le corps est effectivement mort, même s'il peut perdurer pendant longtemps comme les os et les tendons du chimé. A l'inverse, quand l'âme se sépare et examine les êtres en eux-mêmes, elle ne fait pas plus mourir l'homme dont elle est l'âme qu'elle ne se fait mourir elle-même. Les pages 64 à 68 du Phédon sont révélatrices de la coexistence des deux sens d'autokatoto que je relevais tout à l'heure. Mais également, si on peut dire, bon, c'est un peu c'est une hypothèse, d'un passage très net du premier sens, le sens que j'appelais dialectique ou isolationniste, à un second sens qui, lui, est absolument déterminatif. Dans ce contexte, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit plus de suspendre dialectiquement l'ensemble des relations et associations liées à une notion que l'on examine. Mais il s'agit bien de purifier une réalité des mélanges qui obscurcissent sa nature. Il n'est donc pas étonnant que le syntagme auto-katoto soit constamment, dans ce début du Phédon, précisé par d'autres termes significatifs, tels que, comme le relevait Frédéric, eilikrines, en pureté, sans mélange, ou des verbes aussi, tels que sunaigerestai ou atroidzestai, qui désignent l'activité de se ramasser, de se rassembler, de se concentrer. Mais là n'est sans doute pas l'essentiel. Car cette activité de l'âme qui concentre ses efforts pour devenir en soi et par soi, vous aurez noté Gignetai en 65C7, hein, ou pour devenir même qu'elle-même, je garde pour l'instant l'ambiguïté, cette activité ne peut se comprendre que par rapport au mode d'être spécifique de certaines réalités vers lesquelles elle tend, cette âme. Hein. C'est le long texte numéro 13, hein, à cheval sur le recto et le verso. Bon, je ne vais pas lire en entier, hein, il est très connu, et Frédéric en a un petit peu parlé aussi, il me semble. Ce texte, je le glose, mais je ne le lis pas. Hein. Ce texte marque très exactement, selon moi, ce qu'il est en train de se passer au début du Phédon. En un sens spéculatif, qui me semble autorisé par le texte, hein, on pourrait dire que l'activité de séparation du corps, qu'est la pensée, selon Platon, et qui implique que l'âme se concentre en elle-même, s'isole des troubles et des contradictions liées à la perception sensible et au désir. Hein. Que cette activité de séparation ne permet à l'âme d'être en soi-même que, hein, ou si et seulement si, elle recherche, cette âme, la parfaite identité à soi, la même-té, si on veut, de l'intelligible. Ce que je veux dire, c'est que le Phédon montre que si, gnoséologiquement, l'âme ne peut penser qu'en s'isolant en elle-même et en ne comptant que sur elle-même, cette activité n'est ontologiquement possible que parce que certaines réalités sont en soi et par soi, et même qu'elles-mêmes. De façon plus forte et plus directe, l'âme ne peut devenir un soi-même que si elle s'identifie, autant que faire se peut et à chaque fois qu'elle pense, à la parfaite identité à soi de Lucia. C'est cette idée essentielle, selon moi, qu'on voit à l'œuvre dans un argument très discuté, très célèbre, du Phédon qu'on appelle l'argument par affinité. Cet argument s'étend des pages 78b à 84b, et même au-delà d'ailleurs, puisqu'en fait il informe un peu le reste du dialogue. L'argument part d'une alternative, qui est dans le texte numéro 14. À quelle espèce de chose convient-il donc de subir cette affection-là, je veux dire se disperser, et à propos de quelle chose convient-il de craindre qu'elle ne subisse cette affection? Et à qui convient-il d'éprouver cette crainte? Et après cela, ne faudra-t-il pas encore examiner laquelle des deux espèces de choses est une âme, et de là tirer la conclusion? Doit-on être confiant ou ressentir de la crainte pour ce qui est de notre âme à nous? À quel est le sens de cette alternative? Je ne vais pas la gloser, je vais citer ce que Dixot a très bien dit là-dessus. Je la cite. C'est bien une alternative, et Socrate ne se répète pas. D'une chose à laquelle il convient de subir une dispersion, on peut raisonnablement penser qu'elle la subira. Pour la seconde espèce, en revanche, il y a seulement lieu de craindre qu'elle ne la subisse. Donc, dans le premier cas, la dispersion est inscrite dans la nature même de la chose. Dans le second, la crainte vient de ce qu'un sujet juge cette dispersion possible. Et cette dissymétrie est extrêmement importante pour le reste de l'argument. Alors, à partir de cette alternative, l'argument se développe en deux étapes. La première d'entre elles est consacrée à l'examen des choses composées et incomposées. Il y a deux types de choses composées. Celles qui le sont par nature et celles qui ont été composées. Dans les deux cas, il paraît vraisemblable d'avancer que leur mode de décomposition suivra la modalité même de leur composition. Pour les choses incomposées, en revanche, il convient, prosekei, qu'elle ne soit pas décomposée. En employant prosekei, Socrate souligne que ce n'est en rien une implication logique qu'il tire de ses remarques précédentes. C'est tout au plus une nécessité factuelle. En effet, il y a des choses qui ne sont pas faites pour être décomposées. Mais de là, on ne peut pas déduire avec certitude qu'elles ne le seront jamais. Il y a des exemples dans le Timée. D'autres choses, en revanche, sont par nature faites pour être décomposées. La différence passe donc ici entre ce que l'on peut déduire de la nature de la chose et ce que l'on peut craindre qu'une chose subisse, sans préjuger pour autant qu'elle le subira forcément. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui nous intéresse plus se concentre sur l'examen des choses que Socrate appelle « haper, ai, katatota, kai, hosotos, ekei », les réalités, toujours même qu'elles-mêmes, et immuables. Là encore, il est vraisemblable, dit Socrate, que celles-ci soient incomposées. En effet, la moindre composition contredirait leur immuabilité. Réciproquement, il semble juste d'affirmer que les réalités tade alot alos kai medepote katatota, les choses qui sont tantôt ceci, tantôt cela, et ne sont jamais les mêmes, hein, sont, sous les mêmes rapports, sont, elles, composées. Même si Socrate ne le rend pas explicite, il semble aller de soi que toute composition, parce qu'elle distingue notamment nécessairement des parties, hein, rend la chose qu'il a subie différente d'elle-même sous certains égards. C'est un argument dont la deuxième partie du Parménide fait un grand emploi. Une fois qu'on a rapproché les choses composées des choses toujours changeantes et les incomposées des réalités identiques à elles-mêmes, Socrate rappelle alors la distinction élaborée précédemment dans le dialogue entre ce qui est même que soi-même, autokatoto, la forme de l'égal, celle du goût en soi, d'une part, et les multiples choses qui sont belles, bonnes, égales, d'autre part. Les premières gardent leur identité, donc vraisemblablement sont incomposées. Les secondes sont changeantes et jamais identiques à elles-mêmes, donc, de par le rapprochement réciproque, sont composées. On peut donc déduire, vraisemblablement, que l'intelligible ne se décompose pas, restant toujours même que lui-même, et que le sensible, lui, est le lieu de la composition et de la décomposition des choses. Mais qu'en est-il de l'âme? C'est quand même pour savoir ce que c'était que l'âme, et surtout si elle allait mourir, qu'on se posait cette question. Hein. C'est ce à quoi répond le second moment de l'argument, qui va développer le point qui m'intéresse, à savoir le rapprochement entre l'activité intellective de l'âme et les réalités qui lui sont propres. Socrate donc, demande à ses interlocuteurs à ce moment-là du texte, je suis aux alentours de 79b, avec laquelle des deux espèces, disons-nous que le corps est le plus semblable et a le plus de parenté? La réponse est évidente, le corps a plus d'affinité avec les choses sensibles. Réciproquement, l'âme est plus semblable au moyotéron, hein, à l'espèce invisible. Et tout ce texte est écrit au comparatif, hein, c'est extrêmement important dans l'argument. Néanmoins, pour l'âme, les choses sont plus compliquées. L'âme n'est évidemment pas une forme intelligible, hein. Elle est un intermédiaire, ce que n'est pas le corps. D'où la facilité avec laquelle est résolue la question de l'appartenance du corps à l'espèce visible. L'âme, à la différence du corps, qui n'anime rien du tout et qui ne peut se lier lui-même, l'âme peut subir l'emprise de ce dernier, hein, dont la mesure est évidemment relative, mais emprise qui peut se transformer en aliénation. Et voilà d'ailleurs comment cette aliénation est évoqué par Socrate. C'est le texte 15. Elle est parfois tirée par le corps vers les choses qui jamais ne demeurent même qu'elle-même. Elle erre, elle est troublée, elle perd la raison comme enivrée de vin parce qu'elle est en contact avec de telles choses. À cet état d'alignation et de trouble s'oppose celui de l'âme qui se tourne vers l'espèce invisible. C'est le texte 16. Mais quand elle-même est par elle-même, au tekatoten, elle se lance dans cet examen. C'est là-bas qu'elle s'élance vers ce qui est pur, ce qui est toujours, ce qui est immortel et toujours identique à soi-même. Et parce qu'elle est apparentée à cette manière d'être, c'est toujours auprès d'elle qu'elle va, chaque fois, précisément qu'étant elle-même par elle-même, cela lui est possible. Et elle cesse d'errer et reste toujours identique à elle-même dans les mêmes conditions, parce qu'elle est en contact avec des réalités de ce genre, hein, Toyoton renvoyant évidemment à l'identité à soi précédente. Or, c'est cet état de l'âme, n'est-ce pas, que nous appelons pensée. Pour notre question, ce passage est évidemment absolument important. Vous aurez noté non seulement la récurrence du philosophème qui nous occupe, mais également la récurrence de son équivalent, hein, par exemple peri ekeina aei kata tota hosotos. Et vous aurez également noté enfin la difficulté qu'il y a à le traduire uniformément. Hein, c'est toujours intéressant quand on ne peut pas traduire uniformément une expression identique. La raison de cette difficulté se trouve, je crois, dans le fait que les deux sens, ou si l'on préfère les deux dimensions de l'identité à soi, sont à l'œuvre dans ce passage. En effet, pour penser, l'âme doit se défaire des liens imposés par le devenir. Elle doit s'en isoler et s'y soustraire. Cet isolement est la condition de possibilité gnoséologique de son activité pensante. Le résultat de ce processus de déliaison et d'isolement purifiant, c'est l'absence d'errance qui prend la forme de la parfaite identité à soi. Mais la condition ontologique de cet état acquis par l'âme, notez encore l'usage de genetai, la condition ontologique de cet état, c'est l'existence de réalités qui n'ont pas à devenir même qu'elles-mêmes, et ce précisément parce qu'elles n'ont pas à devenir tout court. Alors finalement, si j'ai eu raison de relever que c'est dans le Phédon que, de la façon la plus claire, Platon constitue, par l'usage de autokatoto, un philosophème déterminé afin d'exprimer la parfaite identité à soi des réalités intelligibles et afin d'exprimer la modalité de l'activité de l'intelligence qui vise à les saisir. Qu'est-ce que cela veut dire, philosophiquement parlant, de soutenir que les essences ou les formes sont ota katota, même qu'elles-mêmes en soi et par soi? Ça ne signifie pas, bien évidemment, qu'elles sont identiques à, qu'elles sont même que, mais seulement, je crois, qu'elles sont elles-mêmes. Alors, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de dire que ces réalités restent même qu'elles-mêmes malgré l'attaque des choses extérieures, d'une part. Ça ne signifie pas non plus une simple tautologie, du genre les réalités intelligibles sont ce qu'elles sont. Comme notre rapide survol de la première partie du TETET l'a montré, enfin j'espère, être même que soi implique que l'on n'ait pas besoin de devenir pour être, puisque être même que soi est impossible quand tout, absolument tout, devient. La conséquence immédiate de cette idée est extrêmement importante. La mêmeté des formes intelligibles n'exclut pas la relation, et notamment pas la relation de participation. Ce n'est pas, comme on le dit parfois, l'impassibilité ou l'isolement, ou encore, comme Aristote le dira, avec sa mauvaise foi caractéristique, la séparation, qui sont les conditions du même. La condition de la mêmeté, je crois, c'est l'impossibilité de s'altérer de l'intérieur, c'est-à-dire de se fragmenter de façon interne. La preuve en est que certaines choses sont sans jamais être ce qu'elles sont. Ces choses, ce sont évidemment les choses sensibles, dont Platon n'a jamais nié l'existence, ni le fait qu'elles possèdent des propriétés. Le Timée passe un grand nombre de pages à expliquer pourquoi le sensible a des propriétés. Ça ne veut pas dire que Platon pense que les choses sensibles ne deviennent pas, elles deviennent toujours. Ce que je veux dire, c'est que l'être des choses sensibles, quand on parle de l'être des choses sensibles, c'est ça le point essentiel, n'est qu'un moment du devenir englobant. Or, il y a des choses justement qui sont en dehors de ce processus-là. Voyez par exemple le texte 17. Et pour les multiples choses qui sont belles, hommes, chevaux, vêtements par exemple, pour n'importe quelle chose du même genre pouvant être dites égales ou belles, bref, pour toutes celles qui sont désignées par le même nom que les êtres dont je parle. Qu'en est-il de ces choses? Est-ce qu'elles restent les mêmes, katatota hekei, ou bien, tout au contraire de ces êtres, ne sont-elles, pour ainsi dire, jamais et en aucune façon les mêmes, et pas davantage vis-à-vis d'elles-mêmes que dans leurs rapports, que dans les rapports qui les relient les unes aux autres? J'avais prévu initialement de vous parler maintenant du Parménide, ce que je ne vais évidemment pas faire. Je vais vous dire en deux phrases ma thèse. C'est des choses que j'ai déjà publiées de toute façon, donc ça n'aurait rien de très original. Par rapport à ce que je viens de dire, la version standard de l'orthodoxie platonicienne consiste à dire le Parménide est le moment de crise du platonisme où Platon va justement enfin remettre en cause l'hypothèse des formes intelligibles et passer à des choses un peu plus sérieuses dans le sophiste et le Parménide éventuellement selon la façon dont on date les dialogues. J'ai développé dans plusieurs endroits, paru et apparaître, que je pense que ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'il faut comprendre le Parménide, que le Parménide, au fait, est en un certain sens, pour employer une formule qui vaut ce qu'elle vaut, une sorte de Phédon inversé, c'est-à-dire que le Parménide nous montre à quelle conception des formes et à quelle conception des formes on arrive et dans quelle aporie on tombe si on pose des formes indépendamment de l'activité de l'âme qui les pense. Voilà ma thèse. J'ai un certain nombre d'éléments pour le montrer, je n'ai pas le temps de le faire. Ça ne rend pas les formes dépendantes de l'âme, mais ça fait comprendre un peu mieux, je crois, la façon dont on doit poser une forme intelligible pour que précisément elle puisse rester même qu'elle-même et être participée. en restant. Voilà. Bon, mais je laisse ce point complètement de côté, on peut en discuter si vous voulez. Je passe donc à ma cinquième et dernière partie, qui sera courte, et dans laquelle je vais considérer une thèse du sophiste, et je vous prie de m'excuser d'être aussi expéditif sur un dialogue aussi compliqué. Le sophiste est évidemment, à bien des égards, le point culminant de l'ontologie platonicienne. Mais il est aussi le point culminant du problème qui nous occupe, à savoir les rapports de l'être et de l'identité dans l'ontologie de Platon. J'ai essayé de montrer dans ce qui précède que si Platon, à partir du Phédon, utilise le syntagme figé auto-katoto comme un philosophème adéquat à l'expression de la nature des formes intelligibles, c'est avant tout pour souligner ce qui les caractérise de la façon la plus imminente. Que les formes soient, même qu'elles-mêmes, signifie en effet qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent en aucun cas subir la force de fragmentation et de dispersion interne et externe, si on veut, du devenir. Mais l'analyse des très grands genres du sophisme fait évidemment un pas de plus, puisqu'elle explique précisément pourquoi une forme est même qu'elle-même. C'est quand même un élément digne d'intérêt. La réponse du sophisme est très simple, et très compliquée à la fois, ou en tout cas elle est très simple à dire. La raison pour laquelle une forme, n'importe laquelle, toute forme, est même qu'elle-même, c'est qu'elle l'est par participation à une forme, la forme du même. Voilà la réponse du sophisme. On est bien avancé. Le sophiste montre en effet qu'il y a une forme du même et que sans cette forme, il est impossible de comprendre les rapports des grands genres entre eux. D'accord. Pour l'instant, je pense que ça ne devrait pas soulever d'objection. Or, cette analyse a des conséquences philosophiques considérables par rapport à l'enquête que j'ai tenté de mener très rapidement. La conséquence philosophique principale est la suivante. L'être avec un grand E, n'est auto-katoto. La forme de l'être, si vous voulez, n'est elle-même, n'est même qu'elle-même, ne trouve son identité à soi que médiatement, par participation au même. C'est une thèse forte, et c'est une thèse étrange. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de toute l'analyse des grands genres, évidemment, il faudrait le voir en grec parce qu'il y a beaucoup de problèmes de texte. J'ai juste en rappelé un des principaux résultats. La forme du même a pour fonction de conférer à chaque forme, quelle qu'elle soit, un soi-même. Très bien. Encore une fois, le point est le suivant. Le fait que chaque forme participe à l'être, puisque l'être est universellement participé, ne suffit pas à lui conférer ce soi-même. Le point philosophique, il est là. La participation universelle à l'être fait que chaque forme est, mais pas qu'elle est, elle-même. Alors pourquoi en est-il ainsi? On peut se demander pourquoi. Je pense que la raison essentielle tient, en tout cas c'est mon avis, à ce qui constitue, si on peut dire, l'innovation radicale du sophiste dans l'ontologie platonicienne. Et en même temps, la véritable alternative à Parménide, c'est-à-dire le véritable parricide. L'innovation, c'est évidemment la forme de l'autre. Alors là, je vais rentrer dans des choses qui sont discutées, sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, même si évidemment, si je les soutiens, c'est que je pense avoir raison. Mais ça, c'est une autre question. En tout cas, il y a des débats et des options très différentes. Comme la forme de l'être, la forme de l'autre est universellement participée. Parce que l'être participe nécessairement de l'autre, l'être ne peut plus se contenter d'être simplement étant. Il est aussi autre, c'est-à-dire autre que toutes les autres formes qui participent de lui. Or, c'est cette participation universelle à l'autre qui explique pourquoi Platon se voit contraint de soutenir que, parce qu'il participe de l'autre, l'être n'est pas même que lui-même par lui-même, mais bien par participation au contraire de l'autre, qui est la forme du même. Ce qui est valable pour l'être l'est aussi pour toutes les autres formes. Toutes les formes ne sont même qu'elles-mêmes que médiatement par participation au même. Et ce, parce qu'elles doivent être capables d'entrer en relation avec d'autres formes, donc de participer à l'autre, sans s'altérer elles-mêmes et perdre leur soi-même. Du coup, une question vient nécessairement à se poser. si l'être et l'autre sont bien des genres universellement participés, hein, ce que certains commentateurs, contre toute évidence textuelle, dénient, hein, et bon, peu importe. Qu'en est-il du même ? Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. La majorité des commentateurs, l'extrême majorité des commentateurs, soutient que le même est lui aussi universellement participé. Car il faut bien que chaque forme soit même qu'elle-même pour entrer en relation. C'est exact. Mais si la prémisse est vraie, la conclusion de l'argument me semble pourtant incorrecte. Toutes les formes participent du même, oui. Toutes sauf une. La forme de l'autre. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends le passage très difficile de 255 CD que vous avez, c'est le texte 22. Évidemment, une objection facile au point que je viens de faire consiste à dire oui, bien sûr, mais la forme de l'autre participe du même en tant qu'elle est une forme. Hein. Mais encore une fois, la question n'est pas vraiment ici de distinguer entre des first order et des second order predicates, puisque c'est vraiment, grosso modo, la solution ressortit toujours un peu à ça. Et je pense que c'est une solution insatisfaisante. Plus philosophiquement, si la forme de l'autre participait du même, ce que, selon moi, c'est le raisonnement que pose le texte 12, alors elle serait non plus autre, mais même, ce qui est impossible, puisque c'est la forme de l'autre. En ce sens, pour l'autre, se tourner vers soi-même, c'est se tourner vers l'autre. Comme vous le voyez dans le texte 22, chaque genre, pardon, le texte 21, chaque genre est en effet dit même à cause de sa participation au même quant à soi-même. Diaten metexin totu pros heoten. Mais participant également de l'autre, il devient non plus ce soi-là au kekaino, mais autre à l'hétéron. Comme le rappelle le même passage, quelques lignes plus haut, les êtres peuvent se dire de deux manières. Ils peuvent se dire en tant qu'ils sont même qu'eux-mêmes, hein, ota katota, et en tant qu'ils sont toujours relatifs à autre chose, hein, prosala. Mais l'autre, lui, est par définition toujours relatif à un autre. Et c'est ce qu'explique le texte 12, le texte 22. Hein. L'autre ne peut donc exister auto katoto. Hein. C'est la conséquence de la thèse que je soutiens. L'être de l'autre, c'est l'altérité totale et absolue, altérité qui exclut tout soi-même. Alors, on objectera que c'est peut-être là une conception fort abstraite, parce que trop radicale de l'autre. Mais je crois que l'objection est infondée pour précisément les raisons que j'ai évoquées et les textes que j'ai parcourus tout à l'heure. Platon envisage, selon moi, très sérieusement une position philosophique qui ne contiendrait pas la puissance de différenciation radicale de l'autre par l'être et par le même conçu comme forme. Cette position, c'est celle qu'on a déjà entrevue. C'est le monde de relations pures, selon moi, des héraclitéens les plus subtils et aussi de la septième hypothèse du Parménide. Un monde si radical qu'il refuse même que la relation, que l'altérité puisse être dite être. Hein ? Il n'y a même pas d'être de la relation dans ce monde, puisqu'il n'y a que de la relation. Il n'y a même pas d'être de la relation. Or, le point central du sophiste est bien là. Même si l'autre n'est pas même que lui-même, il est. C'est pour cette raison que la distinction, je crois, entre l'être et l'identité s'est avérée aussi cruciale pour Platon. Et en terminant, on voit bien effectivement comment de ce point de vue-là, ça se coordonne à certains points assez intéressants du débat sur Oedipum chez Augustin, puisque précisément la façon dont l'être et même se coordonnent devient un point important, la question de savoir ce que Oedipe Soum veut dire de ce point de vue-là. Merci.